voix nue. Bonjour à toutes et à tous, à voix nue, second numéro avec vous toute cette semaine, Claude Régis. Hier, vous nous avez rappelé cette époque bénie, et je ne crois pas que c'est la nostalgie qui vous dictait vos propos de l'aube des années 50 à Paris, où il y avait des directeurs de théâtre qui faisaient confiance à des gens qui avaient envie de travailler ensemble, qui avaient envie de faire découvrir des auteurs, qui avaient envie de faire passer, dans tous les sens du terme, l'amour du théâtre, même si cet amour était artisanal et n'était pas dicté par la loi du marché. Est-ce que vous pensez que l'essence du théâtre, l'attente du théâtre dans ces années-là, était radicalement différente de celle d'aujourd'hui ?
Elle était forcément différente. Je pense que tout est complètement différent. Je vois bien que les gens sont différents qu'ils étaient en 1950.
Oui, mais le théâtre n'est pas tellement différent, ni le désir du théâtre.
Alors, il y a beaucoup de choses contradictoires, parce que c'est ça qui est surprenant, c'est que souvent on considère le théâtre comme une chose désuète, qui ne correspond plus au progrès technologique. On a beau mettre de la vidéo et du son très sophistiqué, et tout ce qu'on peut inventer comme lumière, mais...
C'est pas une critique de votre part, parce que côté vidéo et son très sophistiqué, et lumière formidable, au contraire, artiste.
Mais je travaille énormément avec ces éléments, et surtout, je dirais, avec la lumière, parce que c'est cette chose impalpable, et en même temps qui est fluctuante, et qui peut bouger sans cesse. Et en même temps, justement, dans toutes ces recherches obscures que je fais, j'ai découvert que la lumière est capable de changer la réalité, et que même la réalité d'un être vivant, et que par conséquent, c'est un élément fantastique, puisque ça permet de contester l'existence de la réalité, puisque on arrive à faire passer la réalité dans plusieurs aspect de réel, et que finalement ce n'est peut-être jamais qu'un passage d'un état de réel à un autre état de réel, et qu'il n'y a pas d'état de réel fixe, ce que l'astrophysique nous dit d'ailleurs un petit peu aussi, et c'est une chose qui m'a conforté d'ailleurs, cette idée que rien ne peut nous permettre de dire qu'un objet est ce que nous percevons de lui, et que donc la réalité dépasse infiniment la perception que nous pouvons en avoir, et que donc s'arrêter à une réalité cernée, fixe, reconnaissable et définissable comme extérieure à nous, est une illusion totale. Alors il me semble que ça change complètement la façon d'aborder le réel au théâtre, qu'évidemment, ça ne va pas dans le sens du réalisme, et encore moins dans le sens du naturalisme, et que ça a été quand même peut-être ça le grand combat de ma vie, je peux dire. Mais je voudrais revenir sur une chose, c'est que vous avez parlé de cette époque bénie du théâtre, parce que j'avais dit en effet des choses très positives, très agréables, très libres. Et d'ailleurs,
généreuse.
À cette époque-là, la division entre les subventionnés et le théâtre privé n'était pas si grande, puisque tout ce début de carrière avec ces pièces inconnues et difficiles s'est passé dans des théâtres privés, en fait. Mais en même temps, c'était une époque terrible, parce qu'on n'était pas payé. Il n'y avait pas de subvention, mais on n'était pas payé. C'est-à-dire qu'on répétait sans être payé. Que la seule garantie pour les acteurs, parce que les metteurs en scène n'en avaient aucune garantie, mais les acteurs, on leur disait qu'ils seraient payés autant de jours qu'ils répétaient. Mais ça, ça avait pour incidence que les producteurs, qui étaient en effet très généreux, mais quand même pas suicidaires, donc ils disaient, faites attention, vous ne répétez que 30 jours, parce qu'on ne pourra, comme ça, on ne paiera les acteurs que 30 jours. Donc c'est déjà des conditions de travail terribles. Et les acteurs n'étaient pas payés pendant les répétitions. Et donc, ils touchaient à cachet pendant ces 30 jours, ce qui n'est pas énorme si la pièce n'était pas un succès. Si on ne dépassait pas 30 représentations, on avait quand même travaillé 60 jours pour le salaire d'un seul mois. Et en même temps, ces conditions de travail, moi, je pourrais plus. Je l'ai fait à cette époque-là. mais je ne pourrais plus monter une pièce en un mois. En Angleterre, où ils sont peu subventionnés, ça continue. Ils répètent 3 semaines. Alors, ils mettent en priorité le texte, ce qui est bien. Mais si on veut élaborer plus que dont vous parliez, c'est-à-dire un travail d'accompagnement de son, de lumière, de transformation, si on veut changer la manière dont les comédiens se servent du texte, si on veut découvrir comment faire entendre autre chose avec un texte, il faut du temps. Il faut expérimenter, il faut se tromper, il faut rayer, il faut reprendre, il faut faire autre chose. Et c'est certain qu'on a besoin de temps. Et qu'idéalement, d'ailleurs, c'est ce qui rend aussi pour moi le travail très difficile dans les créneaux qu'on doit trouver dans les théâtres, c'est qu'il est absurde de répéter dans une salle de répétition, de se transporter dans le lieu et dans ce qu'on appelle le décor et les costumes une petite semaine avant la première et de faire la lumière à la dernière minute et de bâcler. Donc le fait de découvrir le travail et tout ce qui peut émaner du texte et tout ce qui peut émaner des êtres humains qui sont dans un espace, découvrir tout ça lentement, le laisser mûrir comme une gestation, mais une gestation collective, c'est-à-dire que tout soit à l'écoute les uns des autres, la lumière, le son, les acteurs, et on essaye d'harmoniser, de faire une synthèse de toutes ces choses, mais c'est une gestation très lente, c'est un mûrissement très lent. En plus, c'est facile d'analyser que ce travail obscur ne va pas à la même vitesse chez tous les êtres humains. Donc, si on a une troupe d'une dizaine de personnes, il faut aussi trouver l'équilibre de la manière dont ça avance, dont ça progresse, dont ça régresse, parce que les progrès ne sont pas constants et ne sont pas chez tout le monde en même temps, et les régressions non plus. Donc, c'est toute une matière très, 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 très difficile à maîtriser. On la maîtrise pas, d'ailleurs, j'emploie un très mauvais mot. Je dis maîtriser, ça veut dire simplement d'avoir la liberté de chercher comment harmoniser les choses entre elles, quoi. Et donc, cette chose dont je vous parlais là, de répéter forcément en 30 jours, c'était quand même empêcher le théâtre de progresser et empêcher la recherche, quoi. Donc tout n'était pas du tout idéal. Il n'y avait pas de sécurité sociale non plus. Je pense qu'il n'y avait pas de retraite. Je me souviens très bien quand j'étais quand même 12 ans arrêté et faire l'assistant théâtre, ce même théâtre de l'Atelier qui était le premier théâtre de Dulin d'ailleurs, mais qui à l'époque était dirigé par Barsac. Et avec Jean Mercure, je me souviens qu'ils se sont battus pour faire que les artistes de théâtre rentrent dans le système de la sécurité sociale et commencent à cotiser pour les retraites. Donc c'était quand même des conditions vraiment. Alors c'est vrai que c'était de la pauvreté et c'est très difficile de faire un cantique sur les bienfaits de la pauvreté et sur le fait que les mansardes inspirent les poètes, je ne crois pas. Et sur les incidences de l'argent, de la possession, du succès, du financement, de l'endormissement de fonctionnaires administratifs qui gèrent des maisons qui deviennent de plus en plus vastes, qui sont devenues très vastes à une époque où ça avait peut-être encore un sens, mais où ça n'en a plus beaucoup maintenant. Et c'est très difficile de remplir régulièrement des grandes maisons comme Nanterre, des grandes maisons comme Bobigny, où on est forcé de faire des programmations avec beaucoup d'invitations prestigieuses de spectacles étrangers, mais où le risque de la recherche et l'espace laissé à la recherche et l'espace de temps aussi laissé à la recherche est quand même très restreint. Donc on n'a pas tellement progressé de toute façon.
Vous avez évoqué hier la lecture déterminante de Dostoïevski à la fin de votre adolescence et cette recherche éperdue d'un nouveau réel qui serait peut-être surréel, mais qui en tout cas serait pas la représentation de la réalité dans laquelle nous baignons tous les jours. Vous avez aussi évoqué cette vie dans des théâtres de variété, en essayant de faire découvrir des auteurs comme Lorca, Pinter. Et puis il y a eu, et là nous continuons à suivre votre cheminement artistique et personnel et psychique, il y a eu la rencontre, je crois, décisive avec Marguerite Duras, qui était à la recherche justement de cet interstice entre réel, surréel, inconscient, semi-conscient, opacité à l'intérieur de nous-mêmes.
Alors là, effectivement, c'est très important d'en parler, parce que je crois que la rencontre avec Duras a déterminé des choses complètement essentielles dans ma manière de travailler, mais je crois aussi que ça a été très déterminant dans sa manière d'écrire et surtout dans sa manière de faire du cinéma, qui n'a commencé qu'après. Et là, on est forcé de raconter l'histoire un peu, c'est-à-dire qu'elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Les Viollets de la Seine-et-Oise », que j'avais voulu monter, qu'elle m'avait permis de monter au Théâtre de Poche, dont elle n'était pas mécontente. Mais elle a compris, avec son intelligence éblouissante, elle a senti complètement qu'elle s'était fait avoir par les règles conventionnelles du théâtre. Et que parce qu'elle avait voulu faire trois actes, trois décors, faire venir les rôles secondaires, rester dans les lois du théâtre et dans les lois de la réalité, finalement, elle avait écrit un texte médiocre. Et on peut le relire maintenant, on voit la différence d'inspiration entre les viaducs et la Mante anglaise. Donc c'est après ces représentations des viaducs qu'elle est rentrée chez elle, en profitant d'une cure de désintoxication, et qu'elle est revenue à l'écriture d'un livre qu'elle a fait sous forme d'interview, donc de dialogue, et qui s'est appelé La Mante anglaise, par ce jeu de mots génial, parce qu'il s'agit de la menthe, la plante, qu'elle écrit amante, et que tous les amants, jusqu'au livre qui s'appellera L'Amant, tous les amants de l'œuvre sont là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a téléphoné en disant, des amis me disent qu'on peut faire du théâtre avec La Mante anglaise, est-ce que tu l'as lu? J'ai dit non, je n'ai pas lu, parce que c'était le même sujet que les viaducs, je ne vais pas revenir là-dessus. Et elle me dit, lis-le, je crois qu'on peut faire du théâtre, comme elle était très péremptoire. Et elle avait raison, je l'ai lu, et je lui ai téléphoné immédiatement que je voulais le faire. Et on l'a fait, simplement on a supprimé le premier interview qui était le patron du bistrot, pour ne garder que l'interview du mari, et celui de la femme, soi-disant, criminelle. Mais je me suis aperçu récemment que c'est uniquement une pièce sur l'écriture, c'est-à-dire que cette femme dans le jardin, avec ce couvercle de plomb qui de temps en temps se soulève, et les pensées de temps en temps qui sortent et qui atteignent les passants dans la rue comme des lecteurs, et qui les atteint comme des coups de feu. Donc c'est d'une violence criminelle, et j'ai revu le documentaire que Benoît Jacquot appelle Écriture, où Marguerite parle très, très librement de l'écriture et où elle emploie exactement ces mots qui sont ceux de la menthe, c'est-à-dire le cri. Elle dit, m'est arrivé de crier pour l'appeler. L'écrit, elle avait écrit le mot d'Alfonso sur les murs de la cave, et le crime, puisque cette femme était criminelle d'un crime absurde. Mais donc, c'est une œuvre qui porte uniquement sur l'écriture, mais pour faire sentir l'équivalence du crime et de l'écriture, c'est-à-dire de la subversion qui est forcément liée à l'écriture, et qu'écrire n'est pas innocent, qu'écrire déchire, et qu'écrire touche à la mort, et qu'écrire touche à la folie, et on peut lire tous les poètes et tous les écrivains, et on peut regarder tous les peintres. J'ai revu le film sur Munch de Watkins récemment. On voit à quel point la proximité de la folie et la proximité de la mort, et à quel point on a trouvé condensation de ce cheminement en frôlant la mort et la folie quand on a fait 448 de Sarah-Kane. Et peut-être je parle d'une manière très continue et très désordonnée, mais ça m'a beaucoup frappé, parce que dans cette pièce écrite en 98, au moment où elle avait décidé qu'elle allait mourir, et où elle a voulu écrire une dernière pièce, et où elle a écrit cette pièce sur sa mort, précisément, elle a écrit rien qu'un mot sur une page et il y a le théâtre. Ce qui revient exactement au parti pris dans la mante anglaise, c'est-à-dire de monter le texte sans mise en scène et de faire que les acteurs soient simplement en train de transmettre l'inconscient de l'auteur jusqu'à l'inconscient des spectateurs, en passant probablement par le leur. Et donc c'est un théâtre, c'est le texte qui est le théâtre lui-même. Et donc évidemment, ça change complètement le jeu des acteurs, ça change complètement la mise en scène, et ça change complètement la scénographie et même l'architecture théâtrale. Donc mine de rien, cette amante anglaise, par rapport au viaduc de la Seine-et-Oise, ont été l'espace d'une révolution. Et le personnage de l'interrogateur lui a donné l'idée de personnage abstrait. Elle a rajouté Stein dans Détruire, dit-elle, qui n'existait pas dans la première version, qui s'appelait la chaise longue, je crois. Et à partir de là, son cinéma est arrivé, qui reposait un peu sur les mêmes principes, c'est-à-dire du texte que d'ailleurs elle finira par dire elle-même dans tous ses derniers films, ne supportant que très mal, autant qu'elle les adore, comme elle pouvait adorer Seyrig au moment d'India Song, ou Sellers. Elle ne pouvait plus entendre son intériorité passer par l'extériorité de quelqu'un d'autre, je crois. Et c'est vrai que quand elle lit ses textes, on les entend autrement et que personne ne peut les faire entendre comme elle les faisait entendre. Mais c'est la force de création. C'est ça, c'est de montrer que l'écriture est spectacle, qu'il y a une théâtralité inhérente à l'écriture, en fait. Ce qu'on a confirmé en travaillant les deux fois des textes de la Bible. Donc voilà, en effet, ce passage de la vente anglaise a été une révolution totale et déterminante, parce qu'après, j'ai peut-être d'ailleurs trop appliqué ce principe de la non-représentation, ce qui ne fait pas forcément du bien à toutes les écritures.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a l'impression dans votre travail, Claude Régis, que c'est l'essence du texte qui conduit l'architecture de la mise en scène.
C'est ce qu'on espère, oui. C'est ce qu'on espère. Et quand vous dites l'essence du texte, c'est tout à fait juste. Et ça m'a conduit petit à petit à comprendre quelque chose, c'est-à-dire que, d'ailleurs, Jan Fosse parle de la voix muette de l'écriture, et peut-être même une expression qu'il a empruntée à Duras, qu'il a lue. En fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, et ça aussi, ça change complètement le travail des acteurs, il ne s'agit pas de jouer le texte. Il s'agit de faire entendre le secret qui est enfoui dans le texte, qui n'est pas écrit. Et donc de faire entendre une langue inaudible et non matérialisée ni par des signes écrits, ni par des sons à l'extérieur de soi. Donc c'est une langue, je crois que Walter Benjamin appelle ça la pure visée. Et il dit même qu'il faudrait trouver la visée sans visée du langage. Et que c'est ça, la traduction n'est pas traduire le sens, c'est faire se rejoindre deux pures visées qui en fait ne sont pas exprimées. Et ce que les acteurs doivent jouer, c'est cette matière-là qui est invisible et non matérialisée et qui doit résonner dans la conscience des spectateurs s'ils sont suffisamment disponibles et s'ils ne sont pas trop dans une préparation d'un théâtre habituel où ils voient des actions, où ils voient des acteurs, où ils voient des interprétations de la psychologie, du sentiment, des intonations, du naturel, et toutes ces choses où il se sent si à l'aise parce qu'il est comme chez lui, et que la télévision entretient comme un bouillon dont aucune carotte et aucun poireau ne peut plus s'évader.
Donc, qu'il s'agisse de l'Ecclésiaste, de Maeterlinck, de Sarah Kane, de Gregory Motton, de Jon Foss.
De Peter Handke, à un moment.
De Peter Handke, on y reviendra demain. Il s'agit de demander, vous, en tant que métaphysicien, régisseur, plus que metteur en scène dans l'acception la plus classique du terme, de demander à des acteurs de dire un texte sans véritablement le sortir d'eux-mêmes, quoi. Le garder un peu pour eux, mais un tout petit peu pour nous aussi, spectateurs.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a forcément un secret qui passe. Il faut trouver le secret. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? C'est une folie, vraiment, là. Qu'est-ce qui se passe, vous devez le savoir, quand un écrivain écrit? Qu'est-ce que c'est l'acte d'écrire? Et pourquoi il y a si peu de gens qui écrivent, alors qu'il y a tellement de gens qui remplissent des papiers blancs de lignes, de lettres et de caractères? Mais de vrais écrivains, il y en a très peu, très très peu. On dit 3 par siècle.
Duras disait que chacun de nous pouvait en écrire à condition d'aller au plus profond, dans le puits noir à l'intérieur de soi-même.
Oui, mais personne n'y va. Peu de gens y vont, je veux dire. Très peu, très peu.
Vous ?
Ben, j'essaye. C'est pour ça que je disais que c'était aveugle. Je sens bien qu'il y a quelque chose à chercher là, quoi. Et je ne sais pas si on a encore le temps, parce que j'ai été très frappé à propos des psaumes de David. J'ai voulu voir un peu ce qui se passait dans le Coran. D'ailleurs, j'ai vu que les psaumes n'existent pas dans le Coran, mais par contre, qu'on en parle extrêmement souvent, qu'on s'y réfère extrêmement souvent, et que la matière des psaumes se retrouve dans des sourates. Presque décalqué et transposé un petit peu. Et là, j'ai tombé sur ces deux théories d'un Coran, disent-ils, muet, ce qui est trait à toutes sortes d'écritures, où là aussi, ils disent qu'il ne faut pas faire de différence entre la parole de Dieu et toute autre parole, et qu'il y a une parole muette qui rejoint la voix muette de Faust. Et en même temps, ils vont jusqu'à parler d'un Coran incréé. C'est-à-dire, avant que tout signe écrit ait pu se faire sur un papier et qu'aucune oralité n'ait pu prononcer des sons. Donc, ils ont parfaitement senti cette possibilité d'une écriture immatérielle. Et c'est ça que je sens dans les traductions, c'est comment faire passer d'une langue à l'autre ce que chaque langue a d'immatériel. Finalement, ça, c'est une chose commune. Mais si on traduit l'extériorité des signes sonores et écrits, on trahit complètement, on empêche, on peut complètement occulter la délivrance de cette chose immatérielle. Et donc, c'est un travail, en effet, presque démentiel, parce qu'on ne sait pas à quoi s'accrocher. On voit que c'est possible, voilà. Donc, il n'y a pas de raison, parce que quelque chose nous dépasse complètement, pour ne pas s'essayer à le travailler quand même. C'est ça que j'essaye de faire avec les acteurs, et c'est pour ça que j'ai besoin de temps, et c'est pour ça que le public est souvent si déconcerté, parce que ça ressemble si peu à ce qu'on voit sur les scènes, et encore plus à ce que les malheureux esclaves, forçats, encaissent en regardant la télévision. J'ai eu une espèce d'image qui m'est venue l'autre jour. C'est comme si on découpait la calotte d'un crâne et qu'on installait un rat dans le crâne et qu'on referme la calotte et que le rat mange le cerveau et qu'après avoir mangé le cerveau, il meurt. C'est exactement le travail que fait la télévision et elle ne meurt pas, elle. Elle vit des cadavres qu'elle fait. Et c'est une hécatombe effroyable parce que là aussi, les gens croient que c'est la vie.
Merci Claude Régis, à demain. À voix nue, Diffy Mariani, Laure Adler, on se retrouvera demain avec Claude Régis.
En juillet 2006, Laure Adler s'entretenait avec le metteur en scène Claude Régis. Retrouvez et podcastez la série d'entretiens sur franceculture.fr.